play as time goes by.
Bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon.
On reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Brisons nos codes, brisons nos idées reçues.
Vers l'infini.
Compteur d'ondes.
À travers le temps et l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Des Mesures vous propose de plonger dans la complexité des échelles. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, Ulysse vous parle d'épidémie, d'abeilles et de jeux vidéo.
La grippe a des envies de pandémie. Qu'est-ce qu'une pandémie ? Eh bien, c'est quand une maladie fait peau neuve et se propage à l'échelle du monde, le monde entier. En 1918, la grippe espagnole tue 20 à 40 millions de personnes. En 2009, la grippe aviaire tue 14 300 personnes. Quand elle n'est pas pandémique, elle est toujours là, et on sait aujourd'hui prédire plus ou moins précisément ses pics saisonniers. Car oui, cela ne vous aura pas échappé, il y a une saison de la grippe. Aux États-Unis, elle infecte chaque année en hiver 200 000 personnes et en tue 36 000. Une maladie qui embête donc, et qui plus est, dont on ne comprend pas cette tendance à revenir à la même saison chaque année. Les scientifiques proposent bien quelques pistes tentant d'expliquer pourquoi la grippe ne nous touche que par cycle. On pourrait par exemple citer la dynamique d'évolution des virus de la grippe, la réponse immunitaire de l'hôte et sa santé, qui serait elle-même fluctuante intrinsèquement en fonction des saisons, la densification des populations, la température, le chauffage des foyers, le trafic aérien, le transport global d'aérosols, de poussière, la circulation atmosphérique, les phénomènes climatiques de grande ampleur, tels que El Niño et j'en passe. Tout cela est encore très flou, et si des liens sont bien démontrés entre certains de ces paramètres et la saisonnalité de la grippe, il semblerait que celle-ci reflète en fait un immense fouillis, un sac de nœuds où tout se mêle et interagit. Comment distinguer quoi que ce soit là-dedans ? Eh bien, pour comprendre un phénomène de cette ampleur, pas beaucoup de solutions. On pourrait attendre, les bras croisés, qu'une grosse épidémie soit déclarée. Alors on se frotte les mains, et tout excité, on se précipite sur les données éparses et incomplètes des organismes de santé internationaux, des hôpitaux, des cliniques, des organismes non gouvernementaux, qui agissent dans l'urgence. Et on essaye de comprendre, a posteriori, comment ça s'est passé cette fois-ci. Qui a été touché, quand, comment a migré le virus, combien ont résisté, combien sont morts. On peut faire la même chose sans attendre sur des données historiques, souvent moins bonnes, genre la pandémie de 1918. Bref, là, c'est les trous, les lacunes qui ne facilitent pas la tâche. On peut sinon trouver des organismes modèles, la fameuse souris du biologiste qui permet de reproduire à petite échelle de temps et d'espace un phénomène de grande ampleur ou s'étalant sur de longues durées. Ici, deux choix. On s'attaque à la compréhension précise des interactions entre les molécules ou les gènes des virus et de ses hôtes, et alors il faut trouver un modèle qui nous ressemble, sinon même étudier directement des patients à l'hôpital. Ou bien on se penche sur la population entière, et sur comment le virus est transmis à cette échelle, et là il nous faut un animal social. Et pourquoi ne pas essayer l'hyménoptère ? Ptère, ce sont les ailes, et ces ailes sont hymènes, c'est-à-dire accrochées entre elles. Les hyménoptères sont un groupe d'insectes dans lequel on trouve des petites bêtes bien sociales comme les abeilles et les fourmis. Alors ça y est, le biologiste trouve une occasion de sortir du laboratoire et d'aller observer ces belles petites rayées dans leur campagne chatoyante, butiner les jolies fleurs dont la corolle se pâme de belles couleurs sous les chauds rayons de l'astre lumineux qui redonnera des couleurs aux joues pâles et blêmes du scientifique, rat de laboratoire qui... mais je m'égare. Les abeilles, donc, sont des insectes eusociaux, avec un comportement social complexe et un niveau de cohésion bien plus fort que celui d'une équipe de rugby ou d'un parti politique. Cela peut augmenter le risque d'épidémie au sein de la population d'une ruche, entre autres à cause de la grande proximité des individus, de leur haut degré de ressemblance génétique, rappelez-vous, les abeilles d'une ruche sont toutes sœurs, et de leurs interactions physiques fortes permettant la communication, et ce, même d'une génération à la suivante. La capacité de ces insectes à développer une réponse immunitaire forte, à se défendre contre la maladie, passe par la génétique, bien sûr, et s'exprime par divers comportements. Les abeilles ont une bonne notion de l'hygiène. Elles nettoient les ruches en enlevant leurs déchets et leurs morts. Elles inspectent les larves et les pupes, en quelque sorte les chrysalides des abeilles, et isolent rapidement leurs sœurs infectées. Elles se nettoient entre elles pour éliminer les parasites. Elles sont capables de faire monter la température de la ruche pour combattre une maladie. C'est ce qu'on appelle la fièvre de ruche. Elles sécrètent si besoin des substances antibiotiques et leurs matériaux de construction ainsi que la nourriture des jeunes ont des vertus antiseptiques. Bref, tout un lot de défenses individuelles et collectives, un peu comme nous en fait. Et donc là, on peut étudier sur une ruche à quelle vitesse et de quelle façon une maladie se propage, et ensuite essayer de tirer des conclusions sur les ressemblances avec l'homme. Enfin, une autre façon de procéder, c'est d'utiliser des modèles dits compartimentaux, le Graal mathématique. Ici, il s'agit de simuler, avec un ordinateur, une population, avec tout plein d'individus qui interagissent entre eux. Les réseaux de relations sont un paramètre important. Il faut savoir combien de personnes chaque individu connaît et fréquente en moyenne. À cela s'ajoute la probabilité d'infection, la vitesse de reproduction du virus, l'exposition à l'environnement et surtout les compartiments. Ces compartiments divisent la population en classes. Typiquement, il y a les susceptibles, ceux qui peuvent être infectés, les infectés eux-mêmes, et les immunisés qui le deviennent souvent après s'être remis de la maladie. De tout ça, en fonction des différents paramètres qu'on utilise, on peut simuler la transmission d'une maladie au sein d'un très gros échantillon d'une population virtuelle. La grande leçon de ces modèles ? Les interactions sociales seules semblent pouvoir expliquer et reproduire une grande variété d'observations, comme les oscillations périodiques de certaines infections par exemple. On y revient. L'individu et ses choix propres peuvent avoir d'énormes conséquences à l'échelle globale. Et s'il y a bien une chose qu'on ne sait pas simuler, c'est le comportement humain. Ce qui nous amène à un constat qui fera frémir d'excitation les plus geeks d'entre vous, il se pourrait bien que la solution à cet épineux problème soit cachée quelque part dans le monde merveilleux, étrange, bizarre et fascinant des jeux vidéo. Mais nous verrons cela très bientôt dans un prochain épisode.
C'était Compteur d'ondes. Réagissez sur Facebook et Twitter.
Retrouvez-nous et nos chroniques sur transistor.fr et notre site web desmesures.jimdo.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
Compteur d'ondes.